Mais ça, c'est un assemblage de terre, d'eau, de feu devant l'espace. Le Hanzong n'est lui aussi qu'un assemblage d'eau, de feu devant l'espace. Quand nous récitons le Daimoku devant un objet qui est fait de ces éléments, c'est pareil, le Daimoku, on peut le prononcer parce que il est fait de vent, parce qu'il est fait de la chaleur de notre corps aussi. Donc aussi, là, dans le Daimoku, dans la formulation verbale, il y a l'eau, la terre, le feu, le vent fonctionnent. Si on n'avait plus de salive dans la bouche, on pourrait la pratiquer, par exemple. Donc tout cela contribue à mettre en place une forme, mais qui est comme toutes les formes composites, se modifiant, mais là, c'est l'éveil. Là, c'est l'état d'éveil qui est exprimé du vent. C'est pour cela que le grand patriarche a pu dire aussi que aujourd'hui, nous célébrons la naissance du Daishonin dans le sens où lui, Bouddha originel de l'ensemencement de l'époque de Mappo, apporte le salut à tous les êtres du Japon et du monde entier. Avec la grande loi de Myoho Rengekyo, il sort des cinq portes de la terre, de l'eau, du feu, du vent et de l'espace, des cinq éléments mystiques du monde des phénomènes. C'est-à-dire, si une fois qu'on a dit eau, terre, feu, vent et l'espace, on s'est arrêté à une lecture, à une profondeur de vue des choses. Mais en réalité, il dit que ces éléments sont mystérieux, sont mystiques. Parce qu'en fait, bien qu'on dise « eau, terre, feu », leur substance réelle nous échappe complètement, bien sûr. On verra toujours des sous-structures, si on observe de plus près avec des choses pour le faire, et il y aura toujours des structures derrière les structures, où on aboutira après jusqu'à la théorie quantique des cordes dont on a parlé de la dernière fois, je crois. Donc, il y aura toujours une forme visible à laquelle on donnera un nom, et on n'avancera pas pour autant d'un plus, bien entendu. Jamais. Avec la salvation humaine, sans problème. Aussi, donc, à propos du Hanzong, toujours, Nishiyu Shonin, 25e souverain de la loi, dit « Le Hanzong est l'intégralité du corps et de l'esprit du fondateur, Nichiren, recevant et utilisant par lui-même Nammyoho Rengekyo. Pour cette raison, il est la réalité. Il est la réalité parce qu'il le pratique dans la réalité et l'exprime réellement. » Le 26e Nichiren Shonin dit « L'entièreté du Hanzong enchâssé à présent est le corps vivant du Bouddha originel, du Bouddha de une pensée 3000, existant à l'origine sans artifice. Ne pensez pas qu'il s'agit modestement d'idéogrammes ou d'une représentation sur bois. » Et le 29e souverain, Nitto Shonin, nous dit « Ce qu'on appelle pratique réelle est le corps et l'esprit, dans leur globalité, de notre fondateur, corps de rétribution qui de lui-même reçoit et emploie depuis le passé infini. L'ayant manifesté sous la forme du Hanzong et pratiquant réellement, on l'appelle pratique réelle. La substance de la loi est la réalité. La pratique aussi est la réalité. C'est pourquoi on l'appelle pratique réelle. » C'est ce que l'on peut faire matin et soir.
On ne sait pas vraiment que quand c'est Bouddha qui dit n'est pas d'être vivant.
Voilà, c'est ça. C'est pas de la sagesse.
Ce que j'en vois, c'est quand on parle de ce qu'on dit de qualité.
Ouais.
En fait, on dit aussi qu'il n'y a pas de qualité dans le sens que tout ce qui est n'a pas de.
Voilà.
D'origine. Enfin,
Voilà, donc il y a deux logiques. Ouais. Une logique où on peut expliquer les troubles et les souffrances de ce que l'on est. En se disant que c'est le poids du passé. Hein, Nichiren dit, le passé infini est l'origine, le présent est l'éphémère. Quand même, hein, il le dit. Mais de l'autre côté, plus profondément, en tant qu'on pratique, on peut réaliser que, comme nous ne pouvons ni apparaître, ni disparaître, ça, c'est la logique la plus profonde. Mais, avec une logique moins profonde, on peut dire que ce qui est l'expression du passé. C'est pas faux.
C'est pour faire comprendre.
Pour faire comprendre.
Il n'y a pas d'action.
Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'action.
C'est seulement provisoire.
C'est provisoire. Voilà. Et Nietzsche dit, la volonté n'existe pas, la pensée n'est, jamais ça existe, le fait de penser, et ainsi de suite, quoi. Il dit, la vie n'est pas, en tant que telle, la vie humaine n'est pas une merveille, hein. C'est pas une perfection, c'est comment ça arrive comme ça, quoi. C'est pas louable quelque part. Et donc, oui.
La chose est dans la corporealité.
Non. Non, 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 non. La cause, on ne peut voir que les faits. Là, les causes ne nous échappent pas, on ne peut pas voir. Parce que...
La corporité est un
effet. Il y a des états, il y a... Oui, il est porteur. Il est porteur de... Comment dire, nos états, c'est calme, on les a dit tout à l'heure, hein, bien sûr, mais c'est le moi. C'est la volonté de référence à un moi unique. Alors, toutes les souffrances naissent de là. Oui, c'est ça. Et donc, toutes les souffrances naissent de ça, naissent de là. Parce que le fait d'être, forcément, ça induit des choses vis-à-vis desquelles on doit agir. Et forcément, le fait d'être implique qu'on se trouve forcément plongé dans le sentiment qu'il y a un passé et un futur. Donc il y a un moi à défendre, à protéger, là. Mais que ce soit un cheval ou un être humain, c'est pareil. Et donc, de ce moi, quand il disait un jour, des quatre les jours, Héraclite, c'est ça le moi, hein, qui lui est permanent. Donc. Et donc on peut dire, quand même, si l'on veut, c'est une logique encore un peu superficielle, que le présent est l'aboutissement du passé. Mais comme il est infini, ça ne veut rien dire. Ça, la vision plus profonde. Donc, à propos de cette histoire, là où le grand patriarche dit que la vie en tant que effet n'est pas respectable en soi, on trouve Parménide d'Élée qui dit ça, à propos des humains. Il est drôle. Il dit, l'absence de moyens fait courir droit devant dans leur poitrine leurs pensées errantes. Et ils se laissent porter, aussi muets qu'aveugles, effarés. Donc il dit en fait que, l'harmonie provisoire des membres du corps donne la pensée, donc il continue en disant que l'absence de moyens, c'est-à-dire l'irréflexion des êtres, fait courir droit devant dans leur poitrine leurs pensées errantes, leur pensée naît de l'affolement au sein de leur corps. Leur pensée est balancée comme ça, errante donc, et ils se laissent porter aussi muets qu'aveugles, effarés. Et il finit en disant, leur chemin à tous revient sur soi.
Oui.
Il n'y a pas de départ. Ils prendront toujours le même chemin. Et c'est ça, bien sûr. C'est l'être humain, il parle de l'humain. Il y aura toujours un monde, une femme, des gosses, machin, le travail, la torture, je sais pas, bon, ce qu'il veut, ça s'écarte chacun. Et aussi, on trouve, dans un document que j'ai, là, la chose suivante. Si nous, on pratique, donc, on a l'objet devant lequel, le matin et le soir, on essaie d'observer notre cœur. Hein. Bon, Zizi, c'est pareil, sans avoir l'objet, mais c'est pareil. Et donc, lui, Zizi disait que il faut regarder ses propres pensées comme si c'était des nuages qui traversent le ciel. On voit passer une pensée, mais on s'identifie pas en pratiquant son temps. On s'identifie pas en disant, c'est moi que je pense ceci qui est bien moi. Les pensées montent. Et c'est bien ce que je pense, et j'ai raison de penser ce que je pense. Donc il dit, laissez les pensées passer dans le ciel de votre esprit comme des nuages qui ne sont pas le ciel, qui ne sont pas votre esprit. Et il dit aussi que il faut considérer ces nuages, ces pensées qui naissent en pratiquant, comme des démons malfaisants et incontrôlables. Malfaisants et incontrôlables, pourquoi? Parce que ce n'est pas un acte. La pensée n'est pas un acte. C'est un effet. Et ça devient un démon incontrôlable et malfaisant dans la mesure où ça prend toute la tête de la personne. Et qu'elle ne pense qu'à ça. Et qu'elle pratique, disant, vraiment, je guéris, parce que, vraiment, qu'elle est vraiment envahie par des démons incontrôlables. Si elle ne les produit pas, c'est pas elle qui engendre cette qualité.
La pensée t'emmène où elle veut, finalement, quand tu sois
maître. Voilà. Mais ça, l'humain ordinaire le voit pas.
Et ça, en fait, c'est l'état de vie.
C'est l'état de vie. Mais l'humain ordinaire, lui, il va toujours sûr que ce qu'il pense est vrai, parce que c'est lui qui le pense. Il n'est pas du tout, il n'a pas le sentiment du tout d'être ballotté. Même s'il vit mal 50 ans d'affilée. Il verra pas qu'il est ballotté. Par contre, nous qui pratiquons matin et soir, commençons à mettre un frein à cet afflux de pensées désordonnées dans le sens de l'éveil, et là, on commence à voir qu'on est le joueur de notre pensée constamment. On ne le voit que si on pratique. Les autres qui ne pratiquent pas, tout est normal pour eux. Et même dans la détresse ou le flip, l'individu pensera qu'il est normal de ressentir ce qu'il ressent. Parce que l'autre, c'est une salope, et lui, c'est un con. Toujours. Oui, bien sûr. Au soir, au resto, il y a Hélène qui me dit, en parlant de Patrick, elle me dit, il m'a dit au soir qu'il était très normal. J'étais surprise. Hélène, ils ont la coche.
Ouais.
Pas la coche.
Attends,
je sais pas. Oui, Dichny parlait, on était il y a un an ou deux. Et je me souviens de Patrick, il m'a dit qu'il était normal. Tout le monde est sûr qu'il est normal. De vivre ce qu'il vit. Tout le monde. Mais même dans le clip de la parano, ou de l'angoisse, ou de la détresse, ou qu'est-ce que je vais devenir, comme ça, tout le monde est sûr d'être normal. Ça, c'est clair. Si on pratique, par contre, ça commence à devenir différent. On se dit, attention, où est-ce que je prends même? Où est-ce que je suis balancé? Donc, ça, c'est le fait humain, hein. C'est le fait humain, comme disait Parménide, hein, la pensée jetée par la poitrine droit devant, comme ça. Et donc Nietzsche dit, parce que Nietzsche, donc il est vachement fin, il dit, l'homme donne de la valeur à l'action. Mais comment une action pourrait-elle donner de la valeur à l'homme? Donc, autrement dit, en tant qu'humain, ça sur un plan moral, on va attribuer des valeurs aux actes des êtres. Non, ça c'est immoral, ça c'est moral, ça c'est bien, tout ça pour le pays, machin, bon. Mais Nietzsche dit, le problème n'est pas là, c'est que, en tant qu'humain agissant, quel est l'acte qui pourrait donner de la valeur à l'être? C'est que le cheval agisse comme un cheval, on n'en veut pas. Que la guêpe agisse comme une guêpe, elle n'a pas le choix, tout le monde le sait bien. Qu'un humain agisse comme un humain, il n'a pas le choix non plus, mais on mettra une morale, on mettra des prisons, on mettra des bagnes pour juguler ce qui gêne pour le social, hein. Mais Nietzsche dit, mais, quel pourrait être l'acte qui donne de la valeur à la personne qu'il pratique? Et ça, c'est ça, bien sûr, c'est la pratique. C'est le fait de suivre l'enseignement. C'est le seul acte qui donne de la valeur à un homme alors qu'il ne la possède pas à l'origine. Ouais, hein, c'est bien vu de la part de Nietzsche, hein, ça.
Lui, qu'est-ce qu'il répond qu'il donne, justement?
Bah, ça, ce sera le propos du cours prochain. Lui s'éveille. Nietzsche a vécu deux éveils, peut-être plusieurs. Mais, le moyen pour Nietzsche, si l'on peut dire, ça a été une absolue, une recherche de la vérité insupportable. C'est ça que son moteur, la maladie avec, mais c'est plutôt le fait de rejeter tout ce qui est faux et d'essayer de voir la vérité. Bon, ça, c'est super. Il en est mort, hein, donc, faut voir. Pas d'importance.
Parce que justement, il est allé trop loin tout seul.
Non, mais je fais un cours. Donc, le grand matriarche dit, Namurolengekyo est le corps de la loi inconcevable, dépassant les notions de temps et d'espace, où la personne et la loi sont uniques. Tout à l'heure, on a vu que le Bouddha agit tel qu'il perçoit les choses. Donc, la loi et le Bouddha sont une seule et même chose. Le Bouddha est la loi est le Bouddha. Ce qui nous distingue des enseignements provisoires de Shakyamuni, où la loi était antérieure au Bouddha. Le Bouddha s'éveille à une loi qui lui est antérieure. Dans notre école, ce n'est pas ça. La loi est le Bouddha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'antériorité. Donc, ce qui amène aussi la chose suivante, c'est que, pratiquant matin et soir, nous devenons la personne et la loi. Nous-mêmes, dans notre corps physique. Et il continue en disant, en fait, la nature et l'aspect de la pratique sont parfaitement identiques, qu'il s'agisse du Bouddha originel ou des êtres, c'est-à-dire du maître ou des disciples. Il n'existe pas la moindre différence entre le Daimoku que récite le Bouddha originel et celui que nous récitons. Ce fait est particulièrement digne de louange. Il y a identité dans le fonctionnement de ce qu'on pratique entre nous et le Bouddha originel. Et Nichiren dit, à ce propos, l'esprit de l'enseignement que propose le sage se retrouve dans la pratique. Autrement dit, le fait de pratiquer matin et soir va faire que notre esprit va être envahi de l'enseignement, donc de la pensée du Bouddha originel. Condition, sine qua non, suivre le grand patriarche. Sinon, la pensée s'égare. Mais si l'on pratique matin et soir en suivant le grand patriarche, la pensée du Bouddha originel imprègne notre esprit. De la même manière que si vous lisez tous les livres de Victor Hugo, eh bien vous savez, votre esprit sera envahi par ce que Hugo a écrit, mais ce n'aura que la qualité de Hugo seulement. Là, la différence, c'est que la pratique est quotidienne, matin et soir. Et dans ce cas, l'esprit de l'enseignement se retrouve dans notre pratique matin-soir. Ou comme il dit aussi dans un autre texte, que, il dit qu'une plante qui pousse n'importe comment dans un champ de chanvre va être droite parce qu'elle va être guidée par les autres tiges autour d'elle. Et là, c'est pareil. Donc l'esprit est guidé en pratiquant matin et soir et en suivant l'enseignement du second level. C'est la même chose. Donc je peux revenir au niveau timing. Alors, quelle heure il est à quelqu'un à l'heure? Enfin, je l'ai aussi, à vrai dire, si je cherche. On va arrêter. Encore une chose, voilà. Nichiren, dans un gosho, dit « Ceux qui gardent le sutra du lotus, même en perdant leur corps et leur vie, parviennent au degré de non-régression. » C'est-à-dire que, si on garde le lotus, même en voyant, en se voyant perdre sa vie ou perdre son corps, on parvient au degré où on perçoit que tout ce qui est ne peut ni apparaître ni disparaître. Si on garde le lotus, c'est ça qui se produit. Même si c'est dans le fait de perdre son corps ou sa vie, on s'éveille au fait qu'on ne peut ni apparaître ni disparaître. Alors je terminerai, j'avais encore un peu de texte bien sûr, par un truc qui va vous plaire. Ah, je suppose. De Nichiren toujours. Ça dure une minute. La lune, ah tu vas le lire peut-être, tiens. C'est par exemple là que j'ai coché là. La lune ne se complète point. J'ai plus d'eau. C'est barré à droite de bleu.
Ah oui, d'accord, tout ça là.
Ouais. La lune ne se complète point. D'accord.
La lune ne se complète point en une eau bourbeuse, ni les oiseaux sur un arbre mort. Le Bouddha, lui, ne réside pas dans le corps d'une femme dépourvue de cœur. Une femme qui garde le sutra du lotus est pareille à l'écume et elle abrite la lune du Bouddha Shakyamuni. Dans un premier temps, une femme ne sait pas si elle se trouve fécondée. Au fil des mois, comme passent les jours, elle se demande si reste bien cela. Puis la petite, c'est-à-dire. Celle-là qui est dotée de cœur devine également si son enfant sera un garçon ou une fille. Il en va de même pour les doctrines du sutra du lotus. Lorsque nous croyons en notre cœur, un ami Myoho-Renge-kyo, ce cœur devient la demeure où nous voyons le Bouddha Shakya en plein feu. Au début, nous en sommes ignorants, mais les mois succédant, bien le vrai, nous voyons le Bouddha du cœur. Le cœur allant doucement son cul de joie.
C'est joli, hein.
C'est lequel?
Page 9.
En haut à droite, 32 noms. En haut à droite.